Deutsche Welle, Économie et développement.
Le ciment fait parler de lui en Afrique. Au Mali, les prix s'envolent, provoquant la colère des consommateurs. La Côte d'Ivoire, elle, fait face à une pénurie et est obligée d'importer 150 000 tonnes d'ici au mois de juillet pour satisfaire les besoins du secteur de la construction. Quant au Tchad, eh bien, le sac pourrait bientôt n'y coûter que 4 000 francs CFA. On parlera aussi du programme économique du nouveau président français, Emmanuel Macron. Libéralisme, flexibilité du marché du travail, développement de la formation. On décrypte tout cela dans la deuxième partie de ce magazine Économie et Développement. C'est Claire-Marie Costman au micro. Bienvenue. Au Tchad, alors que le pays fait face à une forte crise économique et sociale, une annonce a réjoui la population. La société nigériane de fabrication de ciment du milliardaire Aliko Dangote a décidé de vendre son ciment à 4 000 francs CFA dans les prochains temps. Explication avec Darius Tonblaise, notre correspondant.
L'information n'a pas été rendue publique par les autorités tchadiennes. Mais officieusement, certains Tchadiens se disent soulagés par cette nouvelle en cette période où le pays est englué dans un marasme économique indescriptible.
Moi, en tant que citoyen, je suis content de savoir que le prix du ciment va baisser. Si Aliko Dangote peut faire baisser le prix du ciment à 4 000, ce qui veut dire que le ciment tchadien sera plus moins cher, c'est-à-dire 3 500 ou 3 000. Ça permettra à tous les ménages de construire une maison décente, moderne et qui pourra durer. Parce que nous savons que le prix du ciment est exorbitant, ce qui atteint le prix de 10 000. Et que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'offrir un sac de ciment. Si le sac de ciment pète à 4 000, c'est une bonne chose. Mais reste à savoir si la parole et l'acte seront liés.
On vend le ciment à 12 000, 13 000 selon les endroits qu'on en trouve. Donc ça freine le droit à l'habitat. Les Tchadiens aujourd'hui déjà frappés par la crise, par le chômage, par diminution de salaire, récession, eh bien leur pouvoir d'achat souffre et aussi réel. On peut adopter ce prix d'achat pour le ciment, ça aiderait.
Avis que partage Daouda El Hadj Adam, secrétaire général de ADC, l'association pour la défense des droits des consommateurs.
Pour nous, vu les besoins forts en matière d'habitat dans notre pays, surtout en habitat durable, vu la cherté de la vie, surtout des matériaux de construction dans notre pays, on ne peut que saluer cette initiative et dire que c'est vraiment un ouf de soulagement si cette déclaration pourrait véritablement se concrétiser. Parce que le prix du ciment, quand même au Tchad, est le plus élevé de la sous-région. Et donc si on peut aujourd'hui aller du prix fixé à la moitié ou vraiment même au tiers, je pense qu'on ne peut que saluer cette initiative qui va dans le sens de faciliter l'accès des consommateurs aux matériaux de construction et dont le ciment est le produit de base.
Du côté des entrepreneurs, beaucoup n'y croient pas à leurs yeux. Même si Dangote laisse le ciment à 4 000 francs CFA, c'est pas évident que ça soit le même prix au Tchad, explique Adam Soumaïn, un quincailler.
Vous savez, nous sommes au Tchad et donc je ne crois pas à la vente d'un sac de ciment à 4 000 francs ici. Déjà, le transport et les taxes coûtent extrêmement cher, ce qui fait qu'aucun entrepreneur ne va accepter d'importer un produit et le revendre à perte. Je suis sceptique quant au respect de ce prix au Tchad.
Le marché du ciment est dominé au Tchad par la Société Nationale du Ciment, la Sonacim, installée depuis 2011 à Baoré dans la région du Mayo-Kébi Ouest, au sud-ouest du Tchad. D'un coût global de 46 milliards de francs CFA, cette usine produit 2000 tonnes de ciment par an, alors que la demande est estimée à 700 000 tonnes. Pour combler ce vide, les commerçants importent les ciments du Cameroun et du Nigeria. Car le ciment produit sur place n'est pas seulement inaccessible dans certains marchés du Tchad, mais il coûte plus cher que les ciments importés. Ce que déplorent des citoyens comme le témoin Théophile Bongoro, natif de la région productrice du ciment tchadien.
C'est anormal qu'un bien produit sur la base des matériaux locaux puisse coûter plus cher que les produits importés. Ça, franchement, c'est un peu ça le contraste. Et c'est malheureux, parce que le ciment, c'est un peu les biens de première nécessité. L'État devant mettre à la disposition de sa population les matériaux accessibles. C'est curieux qu'on achète moins cher Dangote ou bien Ciment Cam que le produit coulé localement. Donc les richesses de tout sol sont exploitées sur la base d'une négociation faite par un noyau qui en réalité n'est pas au fait de ces richesses. Donc quand c'est biaisé dès là-bas, tout le reste suit. C'est pourquoi le ciment coûte trop cher aujourd'hui. Moi j'ai un ami qui m'a amusé, il dit qu'il voulait juste acheter ce sac pour décorer sa maison avec parce qu'il n'a jamais vu ce sac. Vous voyez comment un bien qui est produit dans une région donnée, ne se retrouve pas partout. C'est la question que tout le monde se pose. Et ça va où?
Conscient de cette situation, le gouvernement tchadien a procédé en 2014 et 2016 à la pose de pierre de la construction de deux nouvelles usines, dont l'une à proximité de la capitale N'Djamena et l'autre toujours dans la région du Mayekebi Ouest. Ces deux usines visent à accroître l'offre de ciment sur le marché national. Elles auront une capacité de production de 500 000 tonnes chacune. Cependant, des sources proches du dossier indiquent que les travaux de construction sont à l'arrêt depuis plus d'un an compte tenu de la crise financière qui frappe de plein fouet le pays. Darius Tondles, N'Djamena pour la Deutsche Welle.
Et chez vous, quelle est la situation du secteur de la construction? Combien coûte le ciment? Écrivez-nous à l'adresse français@dw.com.
Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait.
Il dit vouloir moderniser l'économie française. Emmanuel Macron, élu président de la République française le 7 mai dernier, a axé une grande partie de sa campagne sur cet aspect. La maîtrise des dépenses publiques fait partie de ses promesses, réaliser 60 milliards d'euros d'économies budgétaires d'ici à 2022. Comment, par exemple, en supprimant 120 000 postes de fonctionnaires dans le pays. Le nouveau chef de l'État français compte aussi réformer le Code du travail. Il veut ainsi encadrer les indemnités versées par les prud'hommes, ces tribunaux chargés d'arbitrer les conflits entre les salariés et les employeurs en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. L'idée est d'instaurer un plancher, un plafond afin de protéger les droits des employés, tout en donnant aux entreprises une visibilité et une assurance qui permettront, dit-on, de lever les freins à l'embauche. Une mesure très appréciée par l'ancienne présidente de l'organisation patronale, le MEDEF, Laurence Parisot, qui était un temps pressentie pour être première ministre d'Emmanuel Macron.
Alors là, ça, s'il y arrive, ça change tout. Pourquoi les petites entreprises n'osent pas embaucher? Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont au prud'homme uniquement parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir toucher une indemnité très importante. Donc si on arrive à plafonner ces indemnités-là, ça donnerait des assurances, ça permettrait vraiment de faciliter l'embauche.
En revanche, pour Christophe Rameau, chercheur à l'Université de Paris 1 et membre du collectif des économistes atterrés, cette mesure est néfaste. Le pays compte un taux de chômage flirtant avec les 10% et ce n'est pas cette promesse de campagne qui va le faire baisser.
Cette mesure, ça ne concerne que les licenciements justifiés, sans cause réelle et sérieuse. C'est une infime partie des licenciements. Il faut savoir qu'en France, il y a la possibilité pour les entreprises de se séparer assez facilement de leurs employés. D'abord, il y a l'emploi temporaire, qui s'est beaucoup développé ces 30 dernières années. Il y a la rupture conventionnelle, qui s'est elle aussi beaucoup développée. Ça n'a aucun sens de dire que c'est à cause de ça que les entreprises n'embauchent pas. Alors, je vous dis, déjà, elles ont de multiples instruments de souplesse à leur disposition. Donc, commencer le quinquennat par cela, je trouve que c'est proprement irresponsable, parce que la France compte beaucoup de chômeurs. Ce dont on manque en France, c'est d'activité. C'est ce qui bloque le recrutement des entreprises. Ce n'est pas le droit du travail, c'est d'abord avant tout leur carnet de commandes. Et c'est à cela, de mon point de vue, que le gouvernement devrait d'abord et avant tout s'attaquer, c'est-à-dire à un vaste plan de relance de l'activité.
Le chercheur dénonce le fait que c'est le droit du travail qui est pointé du doigt comme responsable du chômage en France. Or, il y a eu, selon lui, plus de 30 réformes depuis les années 80 et ce qu'il appelle le tournant néolibéral. Pendant la campagne, Emmanuel Macron a expliqué que quelqu'un qui est au chômage pourra refuser une offre d'emploi si elle ne lui convient pas. En revanche, il ne pourra pas refuser la deuxième. En échange, il a promis davantage de formation. Mais pour Christophe Rameau, l'ancien banquier et ex-ministre de l'économie se trompe de cible et ne met pas la pression là où il devrait.
Elle n'est absolument pas sur la finance, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune disposition du programme d'Emmanuel Macron à ce stade qui prévoit de revenir sur ce capitalisme financiarisé où la finance demande des rémunérations absolument exorbitantes. où ça creuse les inégalités, où les traders touchent des salaires absolument mirobolants. Voilà, donc effectivement, sa cible, ce sont les petits, les chômeurs, avec à nouveau l'idée que s'il y a du chômage, c'est parce que quelque part les chômeurs le veulent bien. Alors, le problème qu'on a, si vous voulez, c'est que en France, il y a 6 600 000 personnes qui seront inscrites à Pôle emploi, il y a 3 500 000 chômeurs officiels, mais il y en a beaucoup plus qui sont en activité réduite, en formation, en stage. Donc voilà, donc on souffre, comme dans d'autres pays européens, d'un énorme problème de sous-emploi, d'un manque d'activité. Et donc là, à nouveau, on a une réforme libérale qui consiste à dire que s'il y a du chômage, finalement, c'est pas à cause de la société, c'est pas à cause d'un défaut d'organisation de la société. Si vous voulez, si on oblige un chômeur à travailler une ou deux heures par semaine, c'est sûr qu'il va sortir des statistiques du chômage. La solution libérale qui consiste à réduire le chômage et à faire exploser le nombre de travailleurs pauvres n'est pas une bonne solution.
D'autant que selon ce membre des économistes atterrés, il y a de grands besoins de chantiers sociaux en France où l'État devrait investir dans des domaines comme l'éducation, la santé ou l'écologie. Cela nécessite par exemple des plans de rénovation thermique des bâtiments, des plans pour les énergies renouvelables. Cela fournirait de nombreux emplois non délocalisables.
Bien sûr qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je le reconnais. Sur la vie, nous met le compte. Sur la vie, si tu n'en plus.
J'espère que ces différentes interventions vous auront permis d'y voir un peu plus clair. Et dans le prochain numéro, nous parlerons des relations entre Emmanuel Macron et l'Allemagne. Pour réentendre ce numéro, allez sur notre site dw.com/français, puis dans la rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.
Bien sûr que les montagnes sont belles, bien sûr qu'il y a des vallées. Et les enfants sautent sur les mines, bien sûr dans une autre vallée. Bien sûr que les poissons ont froid à se traîner là dans la mer. Bien sûr que j'ai encore en moi comme un goût avalé de travers. Mais ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Bien sûr, j'ai la ville dans le ventre. Bien sûr, j'ai vendu ma moto. Bien sûr, je te trouve très jolie.